Pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est le dernier des derniers et c'est un épisode un peu décentré qui illustre non pas une tendance, un chiffre extrait de l'enquête Contexte des sexualités en France de 2023, mais plutôt un ensemble de grands changements notables dans la sexualité féminine ces 20 dernières années. Ce sera un épisode récap, comme une sorte de feu d'artifice, où on apprend encore des choses, aussi bien sur le clitoris que la sexualité d'une personne en situation de handicap. On révise un peu et on y redit la récente diversification des pratiques sexuelles, qu'on ne fait plus seulement l'amour en ayant des rapports vaginaux par exemple. Ça parle aussi de masturbation féminine et beaucoup de l'art ou de la science du cunnilingus qui ont fait des progrès considérables et chiffrés. Qu'il ait été réalisé ou reçu, le cunnilingus est expérimenté au cours de la vie par 72,1% de femmes en 1992 et 86,9% en 2023. 77,8% des hommes l'ont réalisé au moins une fois dans leur vie en 1992 et 87,7% en 2023. On redit enfin dans cet épisode, si c'était nécessaire, que 37,6% des femmes de 18 à 29 ans ne sont plus strictement hétérosexuelles, c'est-à-dire beaucoup plus qu'avant. Plein de choses donc très conclusives, très féminines, il faut bien dire, car c'est un peu l'angle de cette série, même si ça n'est pas seulement ça. Tout de suite donc, Désir de femme par Élodie Font. Et cet épisode, je le précise, donne à entendre des contenus sexuels explicites à ne pas mettre entre toutes les oreilles.
Je suis Nora, j'ai 29 ans. Assez tôt, j'ai compris que si je touchais au niveau de mon sexe, ça me procurait du plaisir. Je me souviens de me masturber en primaire, de beaucoup me frotter sur des canapés. Et je me souviens aussi d'en parler avec mes copines, de nos techniques un petit peu, de une qui se frottait avec son oreiller, de comment on faisait avec nos doigts. Donc c'était assez, je pense, assez tôt. Et en primaire aussi, ça m'est arrivé quelques fois en vacances avec un ami de la famille. Il y avait vraiment quelque chose de, on va faire comme les adultes. On explorait tous les deux nos corps et on se touchait, on se frottait. Je pense que j'ai un clitoris qui est assez sensible. Et que du coup, j'ai vite ressenti des sensations au niveau du clitoris. Mais je sais qu'avant, j'avais déjà découvert ça. Et ça, je l'ai su par mon frère qui racontait une fois, qui me disait « Ah, Nora, quand t'étais petite, t'avais toujours la main dans ta culotte. » Donc je pense que j'ai dû le sentir assez tôt. Alors moi, au collège, je suis très timide, mais à l'aise dans cette timidité. J'ai ma bande de copines de primaire et de maternelle. Je parle pas aux garçons. Et j'ai un premier amoureux en troisième. C'est un garçon de ma classe. Et on part en vacances chez ma meilleure amie avec donc ce garçon. Et on part avec deux copains de la classe et ma meilleure amie et moi. Donc on est tous les quatre en vacances. Donc déjà, c'est la liberté. C'est la première fois que je pars en vacances avec des garçons et des copines. Et on est quatre. On dort tous les quatre dans la même chambre. On commence à se rapprocher avec ce garçon. C'est plutôt lui, d'ailleurs, qui est avenant, entreprenant. Et moi, je suis hyper contente. Et on s'embrasse la première fois, une nuit où on dort. Je suis très, très excitée de ça. À la fois un peu d'appréhension, mais aussi de « Waouh, c'est super tout ce qui se passe. » Et je me souviens de la première nuit où on dort ensemble et il met sa main dans ma culotte et que je suis extrêmement mouillée. Et ensuite, après ces vacances-là, on rentre à l'école et on est toujours dans la même classe. Et du coup, on se met en couple. Donc on se retrouve souvent après les cours chez mes parents parce qu'ils rentrent plus tard du travail. Donc on a l'appartement pour une heure pour nous et qu'on passe beaucoup de temps à s'embrasser. Il y a beaucoup d'envie, mais il y a beaucoup de peur, et notamment de peur sur son corps à lui. Donc je suis plutôt j'ai peur de le toucher, j'ai peur de toucher son sexe, alors que lui, il va être beaucoup plus dans l'exploration de mon corps à moi, ce qui me plaît. peut-être ça a duré, je sais pas, deux mois comme ça, presque tous les soirs. Et on s'embrasse dans... Enfin, je me souviens du fauteuil du salon où on s'embrasse. Une place, mais assez grand pour qu'on tienne à deux. Donc je suis assise sur mon copain. Lui, il me doit beaucoup. Et à ce moment-là... Enfin oui, je pense pas qu'il sache que j'ai un clitoris. Et moi, je sais pas non plus exactement. Enfin, je sais que je prends du plaisir... Mais à ce moment-là, je pense pas que je sais non plus que j'ai un clitoris. Bah, je sais que j'ai un vagin, mais après, c'est pas très clair même. Je pense qu'à ce moment-là, je sais même pas exactement d'où sort mon pipi. Enfin, je sais pas trop comment est fait mon sexe. On a quelques cours d'éducation sexuelle, mais je me rappelle de pénis, de coupe de pénis, et je pense pas qu'on ait des coupes de sexe féminin. Ouais, on apprend à mettre une capote sur une banane, mais c'est... Ouais, je pense pas qu'on nous parle de clitoris. Je pense qu'on parle plutôt de d'utérus et comment on fonctionne un cycle quand on tombe enceinte, enfin, le fait d'avoir un bébé, les règles, etc. Mais on nous parle pas de plaisir ou de... Je pense plus que ça de notre anatomie. Ouais, je crois pas. On est en décembre. C'est un soir où mes parents sont partis au théâtre. Donc je sais que j'ai l'appartement pour moi. Il doit y avoir ma petite sœur qui est dans sa chambre. Et du coup, on se retrouve et on a prévu de faire notre première fois. Du coup, c'est en décembre. Il fait un peu froid. On se dit, ah ok, c'est notre première fois. On est amoureux. C'est sa première fois lui aussi. Donc il y a un peu d'appréhension et d'envie en même temps. Ça ne dure pas très longtemps parce que je stresse que mes parents reviennent. Mais c'est assez doux et c'est plus... c'est fait, voilà, on a fait notre première fois et ça ouvre après ça. C'est les vacances de Noël et je me souviens du coup qu'on fait notre deuxième fois le lendemain et notre troisième fois et quatrième fois. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a plein de relations. Bon, je ne sais pas si c'est... l'âge, mais en tout cas, on a une libido qui est surdéveloppée et on a tout le temps envie de coucher ensemble. Et je pense aussi que le fait de... Comme on habite chez nos parents et qu'on peut pas se voir tout le temps, etc., dès qu'il y a une fenêtre, un moment où il n'y a pas les parents, etc., c'est l'occasion de se retrouver et de coucher ensemble. Du coup, cette relation, donc, elle dure un peu moins de 2 ans, donc troisième et lycée, seconde. On se sépare, mais après cette séparation, on va continuer à se voir et à coucher ensemble pendant une petite année. Et c'est assez rigolo, parce que j'habite au deuxième étage, et donc un jour, on capte qu'il peut escalader la fenêtre. Il y a un toit au premier étage, et qu'il peut escalader les barreaux. Et donc, plusieurs fois, comme ça, il rentre par la fenêtre dans ma chambre. Et voilà, le lendemain matin, je le fais ressortir par les escaliers avec la complicité de ma petite sœur qui emmène mes parents à l'autre bout de l'appartement pour qu'on le fasse sortir. Voilà, donc ça, c'est la fin de la relation. Du coup, là, je suis en terminale. Et dans ma classe, il y a un garçon qui est hyper timide. Et comme moi, je suis aussi hyper timide, je trouve ça trop chouette qu'il soit hyper timide. Et je tombe... hyper amoureuse de lui, donc pendant 6-7 mois je suis obsédée par lui, je parle de lui tout le temps, etc. J'ai fait en sorte qu'il soit invité à l'anniversaire d'une copine. Au moment de repartir, il a crevé à vélo et du coup il m'appelle pour savoir s'il peut dormir à la maison. Donc je supplie mes parents d'accepter qu'il dorme à la maison. Mes parents, je parle de lui depuis des mois et des mois, donc ils voient très bien qui c'est, et donc ils acceptent. Et donc voilà, donc il dort pour la première fois chez moi et on s'avoue qu'on s'aime beaucoup. Et on se met ensemble. Moi, j'ai eu donc, du coup déjà une relation. Lui, c'est la première fois qu'il a une relation amoureuse. C'est nouveau pour lui. Il a envie de prendre le temps. Moi, je pense que je connais quand même plus mon corps parce que, déjà, je me souviens que à la fin de la relation d'avant, je touche mon clito pendant des rapports avec pénétration, donc je pense que, j'ai compris que c'est comme ça que je prends du plaisir. Mais on commence quand même à, à se toucher, à explorer le corps l'un de l'autre, etc. Donc là, on est dans ma chambre. Et en fait, je me souviens... Enfin, je ne sais pas si c'est temps de l'orgasme, mais je me souviens en fait à ce moment-là de... Parce que je compare par rapport à ma relation d'avant et à ma sexualité d'avant. Et je me dis, ah, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus intense, c'est hyper agréable et hyper, je sais pas, pointu comme sensation. Après ça, j'ai un orgasme. Mais du coup, c'est vraiment la stimulation de mon clito, donc avec ses doigts. C'est aussi plus... Enfin, j'ai plus de mal à atteindre un orgasme de cette manière-là parce que c'est hyper fragile. Si ses doigts changent un peu de rythme, etc., ça peut redescendre et ça remonte. Et du coup, c'est beaucoup plus long aussi comme jouissance et comme montée vers la jouissance. Mais du coup, c'est plus intense dans cette relation aussi. Comme je commence à avoir une sexualité avec quelqu'un qui n'a jamais eu de sexualité, en fait, ça va... Enfin, du coup, la manière dont on va faire du sexe va vraiment se calquer sur moi, mais ce que je connais déjà de mon corps et sur... je pense qu'il n'y a, y a rien qui est déjà construit ou mal construit. Donc, en fait, on va vraiment construire notre sexualité autour de mon plaisir, ouais, plutôt. Donc, dans cette relation, c'est une relation de 10 ans. Très vite, dès le début, il va tout le temps stimuler mon clitoris quand on a des rapports avec pénétration. Où il attend que moi je jouisse pour jouir lui, soit en même temps, soit après. Mais en tout cas, c'est assez calé sur moi et mon plaisir. Mais ça, c'est aussi parce que on est resté longtemps ensemble et du coup, on a eu le temps de se connaître très bien et de connaître nos manières de... Enfin, je lui dis pas que je vais jouir, mais je vais lui attraper la main d'une manière ou je vais respirer d'une manière. Et du coup, on sait que c'est le moment où je vais avoir un orgasme. Je suis quelqu'un du coup d'assez réservé, ouais, timide, qui, je sais pas, a du mal à extérioriser ses émotions, à les montrer. Enfin, ben ouais, le fait de communiquer des émotions, des sensations, par des gestes, ça m'aide beaucoup. Enfin, ça me permet de connecter de manière intime avec les gens. En fait, ça m'aide de communiquer avec un autre langage, enfin, pas que par les mots. Et du coup, la sexualité, c'est vraiment un endroit où je lâche prise et je suis très à l'aise. Et en même temps, ben, je découvre encore plein de choses et c'est encore typiquement... Enfin, ça me procure pas particulièrement de plaisir qu'on stimule mes tétons. Et un jour, je vais avoir une relation avec quelqu'un qui va beaucoup lécher mes seins et du coup, ben, ça devient quelque chose qui me plaît. Et j'ai l'impression de bien connaître ce que je connais, mais qu'il y a encore un monde, enfin des mondes à explorer.
Je m'appelle Isabelle, j'ai 47 ans. Ma première fois à moi, alors c'est absolument que des baisers pendant des heures et des heures. Je ne pense pas qu'on ait fait l'amour comme on l'entend faire l'amour. Il n'y a pas eu de pénétration, il n'y a pas eu de cunnilingus. On était super jeunes quand même, 15 ans. Donc beaucoup, beaucoup de douceur, je dirais beaucoup de chaleur, la chaleur. C'était vraiment voilà, de la fusion, quoi. On avait mal à la bouche à la fin de la journée, tellement on s'embrassait. Et en soi, ça suffisait à cet âge-là. Enfin, en tout cas pour moi et pour elle, on n'a pas eu des besoins d'aller beaucoup plus loin. Mais j'en ai un souvenir génial. Et c'est ce qu'on recherche et ce que je recherche encore dans toutes mes premières fois. C'est cette espèce de fusion que tu ne peux pas maîtriser, quoi. Vraiment, ça, c'est ma première fois. C'est plus tard, avec une autre femme, donc ma deuxième petite amie. J'ai souvenir d'un peu de, pas de clandestinité, mais de pratiques amoureuses, sexuelles, silencieuses. Enfin, on essayait. Alors bon, la rencontre, moi je l'ai un peu provoquée, parce que je l'avais dans mon viseur. Je crois que je l'avais dans mon viseur au lycée. Et j'ai mis très très longtemps à la faire me rapprocher. Elle était hétéro. En tout cas, elle se disait comme telle hein, à l'époque. Et je me trouvais toujours sur son passage au lycée ou en allant au car. Enfin bref, j'étais très patiente. Hein. On est devenus amis. Et puis, de fil en aiguille, je l'ai invitée chez moi. Voilà. Et après, je l'ai invitée à mes 18 ans. Et là, je lui ai dit, écoute, je suis amoureuse de toi. C'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Elle a dit merci beaucoup, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et finalement, je ne pourrais pas resituer la durée des choses, mais bon, elle m'a dit, ouais, en fait, moi aussi. Et du coup, C'est dans sa chambre, chez ses parents, faut pas faire de bruit, etc. Et on a notre première fois sexuelle, et la première fois pour moi aussi, du coup, avec une femme. Et d'un coup, boum, on y va, on se lance, et c'est magique. Et puis, c'est très émouvant, puisque... Alors, elle est hétéro, elle accepte quand même une vie sexuelle et une vie amoureuse avec moi. Et du coup, bah ouais, la première pratique que je pense que je fais avec elle, c'est le cunnilingus. Parce que ça me paraît être la plus jolie, enfin la plus qui peut nous appartenir, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à une vie hétérosexuelle, c'est pas une pénétration, c'est pas une masturbation, parce que ça on peut le faire tout seul. Pour moi, le cunnilingus appartient vraiment aux lesbiennes en tant que telles, puisque nous on le fait de bout en bout, c'est-à-dire que c'est pas une pratique juste pour se chauffer, pour faire autre chose, c'est une pratique pour jouir, pour en jouir, quoi. Donc. C'est émouvant parce qu'il y a aussi il y a de l'amour, c'est pas sexuel uniquement, donc il y a un amour fou. C'est quand même hyper intime de se trouver à cet endroit-là d'une personne. Voilà, t'as quand même ta tête entre ses jambes pour lui donner du plaisir, mais et en même temps tu sais pas le faire. C'est la première fois, tu peux hésiter dans ce que tu fais. Donc moi je suis complètement, je pense que mon corps est totalement à l'écoute de ses réactions. Tout en tentant des choses, parce que ben ça, pour le coup on n'a pas d'école de cunnilingus, hélas, mais je veux dire on est en apprentissage l'une et l'autre de ce qui va se passer, et c'est ça qui est beau en fait, c'est l'écoute qu'il faut avoir absolument. Tu peux pas faire ça en faisant de la patouille, il faut vraiment regarder l'autre, et à cette place là t'as quand même une vue sublime, t'as les seins, t'as le sourire, t'as les yeux fermés, parce que la femme, elle peut, la personne là à ce moment là elle a peut-être une intimité qu'elle veut cacher, parce que c'est quand même pas rien de faire ça et de le vivre, de le donner et de le recevoir. Donc oui, moi j'ai un souvenir de beauté totale. Tout ce qui se passe avant va se répercuter dans ce qui se passe dans le moment sexuel et dans le cunnilingus. Enfin, voilà, moi, on peut pas me sauter dessus comme ça, à froid, si on s'est pris la tête il y a 2 minutes sur qu'est-ce qu'on va acheter à Carrefour. Il y a quand même tout un ensemble qui fait qu'on est plus ou moins excité. Il y a un petit jeu quand même, il y a des mots. En plus, on a les textos maintenant, on a les vidéos, on peut se chauffer H24 pratiquement. Donc, il y a ça. Il y a cette préparation mentale parce qu'elle est vraiment nécessaire. Et après, sur le moment, ben, c'est juste de prendre son temps, de sentir l'autre, de toucher l'autre, et après de lécher l'autre, mais pas comme un fou, pas comme une folle, mais vraiment avec délectation, quoi. C'est vraiment, c'est délicieux, donc ça se goûte, quoi. Là, pour le coup, c'est une pratique où c'est que pour l'autre, enfin, c'est pour soi aussi, hein. Ça excite évidemment de le faire, mais pour le coup, c'est que pour l'autre. Et c'est l'abandon, et c'est une confiance qui t'est donnée, qui est, enfin, t'as une sacrée responsabilité quand même, je trouve, dans ce moment-là. Ouais, qui, moi, m'a toujours ravie, et continue à me ravir. C'est-à-dire que c'est pas un truc de la première fois. C'est un truc de à chaque fois. Pour moi, un cunnilingus, c'est, avec n'importe quelle personne, et avec toute nouvelle personne, c'est une nouvelle fois quelque chose que t'as jamais fait. Tu repars à zéro à chaque fois. Même si tu crois savoir des choses, la personne, elle va pas réagir pareil, etc. Donc, on a un sexe en évolution permanente, rien que par le... Même dans un mois, on n'a pas les mêmes sensations sexuelles ou sensuelles à cet endroit-là. Et le cunnilingus, il y a des jours où il va falloir aller très fort, il va falloir y aller pas du tout fort. Enfin, la femme, elle est ultra sensible à cet endroit-là. Enfin, il y a des jours où on n'a pas du tout envie d'être approché à cet endroit-là, et puis il y a des jours où on va vouloir que ça. Même si la personne est la même et qu'on lui fait plusieurs fois le cunnilingus, ce sera jamais pareil. C'est pas la même approche, c'est pas le même moment, on n'est pas excité de la même manière. Enfin, avant d'arriver au cunnilingus, il y a autre chose. Enfin, il y a aussi les baisers, etc. Donc, on n'approche jamais l'autre de la même manière. Enfin, je crois pas, hein. Ou alors on se fait chier, enfin... Ça peut arriver, on peut faire de la routine, mais sur un cunnilingus, je ne suis pas sûre qu'on puisse s'endormir sur une routine. Donc, en tout cas, cette première fois, voilà, a été la première fois de nombreuses fois. J'ai souvent beaucoup donné, mais parce que je me mettais dans cette place-là, en fait, je croyais que c'était comme ça que ça se faisait. Le L-Word a vraiment changé les choses aussi. Enfin, la série L-Word, j'ai vu qu'on pouvait alterner. Enfin, moi, j'étais vraiment à l'ancienne, une féminine avec une masculine, nanana. Et finalement, bon, grâce à L-Word, j'ai un peu réveillé mes options. Et du coup, ça a changé les choses aussi. Mais oui, bien sûr, j'adore le cunnilingus. Après, il faut lâcher prise dans ce que fait l'autre. Et c'est peut-être plus compliqué pour moi. Voilà. C'est juste, à un moment donné, il faut chanter. Et je suis plus concentrée quand je fais le cunnilingus que quand on me le donne, par exemple. Mais ça dépend des partenaires aussi. Il y a des gens qui te claquent au truc et t'es là, je bouge plus. Voilà, donc ça dépend vraiment de la personne qui est en face. Enfin, pas en face du coup, mais en dessous. Non, moi je suis à égalité. Je suis pas du tout dans je donne tout et je reçois rien. Non. Mais j'ai évolué moi dans ma sexualité. J'ai eu un moment où je pensais qu'il fallait pas qu'on pénètre ou pas qu'on se pénètre. Enfin, mais tout ça, ça a dégagé. Enfin voilà, moi je suis pour toutes les pratiques. Voilà. Mais ça n'est pas venu à mes 15 ans. Je dirais que c'est venu à mes 30, 35 ans, voilà, et ça évolue encore. Toutes les personnes qui ont une sexualité, on évolue au fil de nous-mêmes aussi. Donc plus on s'ouvre à soi et plus on s'ouvre à sa sexualité. Après, il y a des gens qui vont rester toujours dans la même posture. Et moi, je pensais que politiquement, la pénétration, c'était pour les hétéros. Alors j'adorais pénétrer mes nanas, mais moi, je voulais pas être pénétrée, par exemple, ce qui est complètement con. Parce que je passais à côté d'un plaisir que j'ai découvert beaucoup plus tard. Mais il m'a fallu ouvrir mon esprit, c'est tout. C'était vraiment... je me disais, j'aime pas les hommes, donc je vois pas pourquoi la pénétration me plairait. Mais au final, pas du tout. Et être pénétrée par une femme va pas faire de moi une hétéro. Ça, je le sais. Je l'ai revérifié, parce que de temps en temps, on fait les mises au point, on se revérifie. Je commençais à m'enquiquiner un peu avec les femmes... Ce qui est fou, hein, mais bon, voilà. J'ai resté avec un homme. Mon premier amour masculin, parce que j'ai dû être hétéro entre 3 et 7 ans. Et j'ai re-rencontré cet homme, je sais plus, entre 35 et 40 ans, on va dire, qui, lui, s'est dit, tiens, allez, on y va. En plus, petit challenge, lesbienne, machin, nanana. Mais non. Mais c'est pas grave, hein, il a été très gentil, courtois. Désolé, on a essayé, c'est pas grave. C'est pas mon truc, donc, no pasaran.
Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans et je suis en situation de handicap moteur. En tant qu'ado, avec ma maladie, la maladie des os de verre, je devais faire constamment attention de ne pas chuter. Donc j'étais toujours surprotégée par ma mère. À la différence de mes camarades de classe, je sortais pas en fait. Après les cours, c'est ma mère qui venait me chercher. J'évoluais dans un environnement très protégé. C'était toujours ma mère qui était là tout le temps. Ado, je tenais un blog, Skyblog, où je racontais mes péripéties d'ado. J'échangeais avec des jeunes de mon âge. Mais il se trouve que j'avais également rencontré un mec. Et cette personne-là, je l'avais été venue me chercher au lycée. J'étais en terminale. Et c'était le typique bad boy. Mais en même temps, c'était pas du tout mon univers. Moi, j'étais quelqu'un de très... un télo qui lisait beaucoup, et lui, c'était vraiment... il avait fait de la prison, il écoutait du rap, enfin, c'était vraiment deux univers. Mais j'avais envie de me mettre en danger, je pense. Vraiment, j'étais en mode, je veux me sentir vivante. Et on a fait l'amour dans l'ascenseur de l'appartement où j'habitais avec ma mère. J'avais mal, il embrassait mal. Oh, mais n'importe quoi, je me dis, il y a peut-être des voisins qui ont entendu des trucs. Enfin, après coup, je me dis, mais oh, la honte. Mais c'est comme si j'étais pas anesthésiée, mais un peu sidérée. Enfin, c'est bizarre. Donc, c'était le premier baiser, le premier rapport sexuel et c'était un total foirage. Non mais vraiment, mais bon après coup je comprends pourquoi j'ai fait ça. En fait, dans ma famille, j'ai pas de modèle positif d'homme. Mon père était violent alcoolique, enfin voilà, il y a toute une histoire familiale. Pour moi, c'était normal que les mecs se comportent comme des connards. Puis en plus, le mec, après qu'on ait couché ensemble, il m'a ghosté quoi. Et moi, je me sentais vraiment abandonnée. Et le pire, c'est que j'étais fière de moi après, enfin n'importe quoi. Et j'en ai parlé à une copine du lycée, elle était à moitié choquée, enfin... Je crois que c'était 2 mois après, pareil, j'étais trop contente, je couchais avec un copain dans les toilettes handicapées du lycée, enfin j'étais vraiment... Aïe. Je voulais me prouver, quoi, Et c'était un peu mon espace de liberté, en fait. Après, donc j'ai eu une relation de 2 ans et demi avec un États-Unien. Et quand je l'ai quitté, j'avais 21 ans. Et après, j'ai enchaîné les relations aussi avec des mecs que je rencontrais sur des sites. Parce que j'avais envie de vibrer, j'avais envie de légèreté et surtout j'avais envie de sentir que j'étais désirable en tant que femme handicapée. En fait, c'est assez ambivalent. Il y a eu des très bonnes expériences. Je me rappelle notamment d'un homme qui devait avoir 20 ans de plus que moi, mais qui a été très respectueux, qui était très à l'écoute de mon désir, de mon plaisir. Mais j'ai eu aussi des expériences où, au moment où j'étais dans la chambre avec le mec, j'avais plus envie de lui. Et en fait, j'ai pas réussi à dire non. Parce que, justement, à cause de mon histoire de violence avec mon père, dès que je résistais, dès que je disais non, je me prenais des coups. Donc je pense que j'avais gardé ces mécanismes, en fait, de jamais dire non. Et j'ai appris à vraiment être... à savoir qui suscitait du désir chez moi, à vraiment écouter mes désirs, chose que je faisais pas du tout à l'époque. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu comme dans un éléphant, dans un magasin de porcelaine avec mon fauteuil. J'aime pas du tout mon corps. Par exemple, je me monte jamais debout devant des gens. J'aime pas, je me trouve monstrueuse debout. Quand j'en parle avec des personnes qui ont la même maladie que moi, c'est vrai que le sexe, ça permet de se reconnecter à nos corps, en fait. Parce qu'avec la maladie des os de verre, on se casse, on a eu des interventions. Et c'est vrai que le corps est associé à la douleur. Et je suis toujours un petit peu déconnectée de ce corps. Donc c'est vrai que la sexualité me permet de me reconnecter. Je me lâche. C'est le seul espace, quand je suis en confiance avec quelqu'un, où je peux me lâcher. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui se libérait, en fait. À partir du moment où je sens que la personne a envie de moi et que j'ai envie d'elle, là, c'est comme si j'avais plus trop de craintes. Vraiment, pour moi, le sexe, c'est quelque chose un peu qui répare.
C'était Désir de femme, un reportage d'Élodie Fon réalisé par Perret Legras. Merci à toutes les trois, Émilie, Nora et Isabelle. L'attachée de production de Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Inès Bouffartic Sébastien. Contexte des sexualités en France, c'est une enquête sous la direction d'Armel Andreau, Nathalie Bajos, Caroline Moreau, menée pour l'ANRS Maladies Infectieuses Émergentes par l'INSERM et Santé Publique France. I stepped on the cracks 'cause I thought I'd hurt my mother. And I couldn't awake from the nightmare. It sucked me in and pulled me under. I love you.